l'area.
Bonjour à tous. Je remercie d'abord la Commission nationale et les autres qui m'associent à cet atelier. Ou très modestement, je vais essayer de partager, parce que pour moi, il s'agit d'abord d'un partage avec des collègues sur une expérience professionnelle qui m'a d'abord à travers un site documentaire qui m'a permis de faire des recherches. Donc aujourd'hui, nous allons parler des techniques de recherche et d'exploitation des informations à travers diverses sources documentaires. Je m'en vais déjà vous donner le plan de la communication. Nous allons dans un premier temps faire des définitions, déterminer quelles sont les étapes de la recherche documentaire, voir les sources et les personnes ressources qu'il faut contacter, voir quels sont les outils de recherche et la méthodologie, avant de faire un focus sur l'éthique, la déontologie et le sens des responsabilités dans la recherche. Ensuite, nous allons passer à la diffusion, à la restitution des éléments collectés avant de conclure. Le premier point, donc, va toucher aux définitions. La recherche est, selon Le Robert, un ensemble de travaux, d'activités intellectuelles qui tendent à la découverte de connaissances et de lois nouvelles dans la science, de nouveaux moyens d'expression dans les arts et les lettres. En plus simple, il s'agit de mener un ensemble de travaux destinés à faire avancer la connaissance. Dans le jargon journalistique, quand on parle de recherche, il s'agit de mener des investigations, c'est-à-dire chercher à découvrir, à retrouver qui, où, comment et pourquoi. Donc on note des similitudes dans le fond et la forme quand il s'agit de recherche documentaire ou de recherche journalistique. Et il y a un rapport entre les deux qui est la vulgarisation de l'information scientifique à travers la diffusion des bonnes idées et bonnes pratiques qui contribuent à l'élévation culturelle et intellectuelle de l'ensemble de la communauté. Les étapes de la recherche documentaire sont tout d'abord la définition du sujet. Il faut savoir de manière précise ce que l'on cherche. Donc, avoir une bonne définition des mots-clés. Ensuite, on passe à la recherche des documents, la sélection, l'exploitation des informations. Il faut les traiter, les recouper auprès des différentes sources, vérifier la véracité des informations recueillies avant de passer à la synthèse. Puis, on restitue ces informations à travers la diffusion. Les sources. Il y a d'abord les personnes ressources, on va y revenir un peu plus tard. Les experts. Pour le cas du Sénégal, une bonne recherche commence nécessairement par les archives nationales, la bibliothèque de l'IFAN, les archives du Soleil, les archives de la presse en général, l'ensemble des ouvrages de référence publiés en rapport avec le sujet. Il peut s'agir de livres, de thèses, de mémoires de fin d'études ou encore de communications scientifiques. Donc l'ensemble des publications qui ont été faites en rapport avec le sujet. Il y a aussi Internet, les nouvelles techniques de communication avec Google ou tous les moteurs de recherche en général. Pour l'histoire au Sénégal, avant 1970, il faut s'adresser à l'INA France ou écrire au DG de la RTS pour qu'il autorise l'accès aux archives de la télévision et de la radiodiffusion nationale. Alors, il y a un autre aspect aussi à prendre en compte par rapport à la spécificité de la transmission de la mémoire dans nos sociétés qui est basée sur l'oralité. Ainsi, les griots ont une place dans le système. Toutefois, quand il s'agit de mener des travaux scientifiques, il faut s'entourer de toutes les garanties. Je disais tout à l'heure qu'on reviendrait pour identifier les personnes ressources. En premier lieu, il s'agit des acteurs ou les témoins des événements se rapportant au sujet. Il peut aussi s'agir des personnes ayant un lien direct avec les témoins, l'entourage, la famille, les proches, les collègues, dans le cas des personnes disparues. Ils peuvent être des sources de première main quand on n'a plus en face la personne sur qui on mène la recherche en question. Les experts, c'est-à-dire les universitaires, les chercheurs, ceux qui ont déjà travaillé sur ces sujets, les journalistes ayant déjà écrit ou interviewé les acteurs des événements, ou encore les écrivains ayant publié sur le sujet. Nous allons passer aux outils de recherche. D'abord, c'est comme en journalisme, il faut collecter les informations. Et cette collecte peut se faire avec des entretiens ou des enquêtes. On peut aussi prendre des récits de vie. Par contre, il faut noter qu'il peut y avoir des limites avec ces techniques. Donc, d'où la nécessité de toujours vérifier l'ensemble des témoignages recueillis. Et là, j'ai pris un proverbe qui illustre parfaitement tout cela. Quand la mémoire va chercher du bois mort, il ramène le fagot qui lui plaît. Parce que parfois, à l'occasion d'investigations, on se rend compte que quand les gens restituent leur récit de vie ou leur passé, que ce soit consciemment ou non, ils ont tendance à élaguer certaines choses. Pour d'autres personnes, elles ont tendance à se mettre en avant ou à s'approprier des rôles qu'elles n'ont pas eu dans le passé. Donc, dans tous les cas, il faut vérifier et recouper ces sources si on veut avoir, une version scientifique et totalement objective. Une fois les informations collectées, il faudrait les traiter et les classer. J'ai parlé tout de suite de la confrontation des résultats de recherche, de la vérification des données collectées et du recoupement auprès des différentes sources. Cet élément est primordial dans une recherche si elle veut être crédible. La méthodologie. Il s'agit tout d'abord de faire une revue de littérature, c'est-à-dire une documentation la plus large possible. Il faut ensuite sensibiliser les enquêtés. Prise de rendez-vous, rencontrer les personnes, échanger avec elles, leur expliquer ce qu'on a l'intention de faire, créer des relations de confiance. Parce qu'il faut faire adhérer les enquêtés afin qu'ils s'approprient le projet. Pour le cas que je connais, le cas du film documentaire par exemple, pour pousser les gens à vous confier leur passé ou bien à vous confier certaines anecdotes qui sont parfois du domaine de la vie privée et qui est très sensible, il faut qu'ils établissent d'abord cette relation de confiance. Parce que les gens ne vont pas venir donner toutes les informations sur elles-mêmes au premier venu. Donc c'est très très important. Ce qui nous amène à un autre niveau, le sens de l'éthique, de la déontologie et le sens des responsabilités. Les valeurs et traditions d'un groupe sont extrêmement complexes et cosmogoniques. La recherche suppose une bonne interprétation des données collectées et il existe plusieurs niveaux de responsabilité. D'abord, il y a la responsabilité scientifique, parce qu'il faut restituer la bonne information le plus objectivement possible. Mais, quant à cette restitution, il faut aussi savoir mettre les formes dans la présentation par rapport à l'acceptation et à la perception que le public aura du produit. Parce qu'on peut collecter des informations, mais avant de les diffuser, il faut aussi réfléchir à comment présenter cette information pour qu'elle puisse être acceptée et digérée par les publics. Il y a certains types il y a ce qu'on appelle les non-dits sociaux, des choses que l'on découvre à travers des recherches, mais qu'on peut difficilement restituer sur la place publique. Donc là, on va procéder à l'autocensure. Donc c'est un autre niveau de responsabilité où, en parfaite connaissance de cause et du milieu, on choisit de diffuser ou non une information. Alors, il faut aussi mettre en place un rapport positif avec la communauté, avec la mise à disposition de l'information, instaurer un rapport d'acceptation par le groupe. C'est-à-dire éviter de mettre des jugements de valeur sur la culture, les actes et coutumes d'autrui. On peut faire une recherche, mais on ne peut pas se permettre de juger les gens. On peut restituer ce qu'on a trouvé, mais éviter d'émettre des jugements de valeur parce que ça peut mener à des situations déplorables comme on l'a vu par le passé. Alors, un autre point important pour les journalistes, c'est ne jamais faire abstraction des rapports politiques dans une société parce que les questions déontologiques sont hautement politiques. Il faut pouvoir déterminer l'information sensible. Il y a un type d'information qu'on ne peut manager qu'avec des principes. Il faut faire attention dans ce type d'information parce qu'à partir du moment où elle est diffusée dans un cadre global, elle touche forcément au cadre politique. Nous allons toujours rester dans la diffusion et il existe aujourd'hui plusieurs canevas. Les recherches peuvent être utilisées comme sujet de reportage ou comme sujet de dossier pour mieux approfondir l'actualité à travers les médias. On peut aussi l'utiliser dans l'audiovisuel. Plusieurs exemples existent à travers le cinéma. Il y a le film La Pirogue, le président Diack, entre autres productions qui se basent sur la réalité historique. Dans le président Diack, par exemple, Willy a donné la version de l'ancien président du Conseil du Sénégal sur la crise de 1962, 50 ans après ces faits. On peut aussi utiliser les réseaux sociaux. Il y a l'exemple de YouTube et des réseaux en général. Récemment, des recherches ont été utilisées et diffusées à travers des bandes dessinées, c'est-à-dire l'histoire des tirailleurs sénégalais ou des femmes de l'air qui ont été remises aux écoles. Dans le cadre des films d'animation ou des conférences dans les établissements scolaires et les organismes. Ce qui nous amène à un autre point, la restitution. Il faut toujours évaluer après la diffusion d'une recherche. Et cette évaluation, d'abord, il est nécessaire d'avoir le feedback des enquêtés. Une fois qu'on a collecté l'information et qu'on l'a diffusée, il faut retourner auprès des enquêtés pour leur montrer les résultats de cette recherche et avoir leurs avis et opinions. Ce qui va permettre aux journalistes, déjà au niveau institutionnel, c'est-à-dire en réunion de rédaction, par exemple, d'avoir l'évaluation de ses pairs, de mesurer à plus grande échelle, à travers les critiques positives ou négatives, quelle est la mesure du degré d'intégration de ce journaliste dans le milieu où il travaille. Ce rapport de l'intérieur vers l'extérieur va déterminer l'objectivité de son travail par rapport à la subjectivité de ses enquêtes. Le journaliste se retrouve par essence dans un milieu conflictuel avec des enjeux et des intérêts divergents. Je dirais aussi que le journalisme est un processus continu d'auto-évaluation et d'auto-formation par la bonne expérience. Et c'est à un autre niveau de responsabilité que se joue la différence de qualité. Nous allons à présent conclure. À l'heure où les médias sont décriés, ils gagneraient à se baser sur une bonne documentation tirée de sources fiables pour informer. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde de globalisation où l'information se vit en temps réel. Et une bonne connaissance de ces techniques de recherche, combinée à un sens de l'éthique, ajoutée à une bonne diffusion à travers les nouveaux canaux comme l'image et les technologies de l'information et de la communication, permettrait sans nul doute à une vulgarisation de l'information de qualité et pourra rendre ces lettres de noblesse à un métier qui est un véritable sacerdoce. Je vous remercie.
Merci Djabou. Comme je le disais tantôt, elle vient de nous faire une présentation très pertinente. D'abord, elle a exposé son plan d'intervention sur plusieurs rubriques. D'abord, elle a présenté la définition. Elle nous a fait part de plusieurs définitions par rapport à la recherche. Quelles sont les étapes de la définition? Elle a voulu quand même nous gratifier, n'est-ce pas, de toutes ces étapes concernant la définition et en partant des mots-clés, n'est-ce pas, qui sont importants quand vous faites une recherche. Ensuite, les documents que vous devez trouver pour pouvoir faire cette recherche et bien sûr, l'autre étape, c'est la synthèse qu'il faut faire par rapport à cette recherche et la restitution et la diffusion de cette recherche. Les sources, elle a parlé des sources de la recherche qui sont d'une importance capitale, et l'identification des personnes ressources, qui vont faire des témoignages par rapport au sujet que vous avez à traiter, les acteurs et les témoins, la famille, n'est-ce pas, par rapport à ces recherches qui ont quand même une part importante par rapport à tout ce qui concerne ces recherches-là, les experts, les journalistes, et les écrivains qui ont eu à publier, n'est-ce pas, sur le sujet. Ensuite, elle nous a parlé des outils de la recherche. La collecte. Premier outil de cette recherche concerne la collecte. Les entretiens, les enquêtes, les récits de vie. Cependant, comme elle l'a si bien souligné, elle dit qu'il y a des limites. par rapport à ces recherches, parce que pour des raisons plus ou moins personnelles, les gens ont tendance quand même à modifier, n'est-ce pas, certaines vérités. Et donc, il faudrait vraiment aller jusqu'au fond de ces recherches et adopter une démarche scientifique. Le traitement et le classement de ces recherches, en recoupant auprès, n'est-ce pas, des différentes personnes ressources et des différents documents que vous avez eu à utiliser par rapport à ces recherches. Elle a aussi parlé de la méthodologie à utiliser. Par exemple, pour la recherche, on peut partir, par exemple, de revues. De revues et de documentation le plus large possible en insistant sur les relations avec la personne qui témoigne et essayer d'instaurer un climat de confiance entre ces personnes qui témoignent et vous, et le journaliste qui fait la recherche, bien sûr. Elle a aussi insisté sur la responsabilité scientifique dans la restitution des informations. Comme elle l'a dit tantôt, souvent il y a des déformations, donc il faudrait quand même pousser la recherche de sorte qu'on puisse avoir quand même un résultat scientifique. Elle a aussi parlé de l'autocensure. Quand on est en face, n'est-ce pas, de vérité ou de recherche, d'une recherche où on trouve des éléments qui ne peuvent pas être publiés au niveau sur la place publique. Donc il faudrait quand même essayer de voir ce qu'il y a à publier et ce qu'il n'y a pas à publier. Donc ça, c'est une question de déontologie. Éviter de mettre des jugements de valeur par rapport à la culture des personnes. N'est-ce pas? Ça aussi, ça entre dans le sens dans le domaine de l'éthique. Il ne faudrait pas émettre des jugements, se contenter tout simplement de restituer, n'est-ce pas, les recherches que nous avons eu à effectuer. Par rapport à la diffusion, pour la diffusion, les recherches pour approfondir l'actualité à travers les médias est quand même une étape importante. Donc il faudrait que pour la diffusion qu'on puisse utiliser, n'est-ce pas, bien sûr les médias, mais avec beaucoup d'éthique et beaucoup de déontologie, en utilisant par exemple l'audiovisuel, les réseaux sociaux, les films. Je pense qu'on peut quand même parvenir à diffuser le plus largement possible toutes les recherches et tous les résultats que nous avons pu obtenir par rapport à ces recherches. Évaluation, une étape aussi très importante pour elle, quand elle parle de feedback. Donc, pour le journaliste qui fait la recherche, après avoir collecté toutes les informations, il faudrait quand même retourner, n'est-ce pas, vers les personnes enquêtées, pour voir, n'est-ce pas, leur montrer ce qui a été collecté et voir par rapport à ce qu'ils ont eu à dire par rapport à ces recherches, est-ce que vraiment les résultats concordent. Mesurer aussi le degré d'intervention du journaliste, n'est-ce pas? Parce que il peut avoir tendance, n'est-ce pas, à émettre, comme on l'a dit tantôt, des jugements de valeur ou bien avoir tendance à modifier certaines choses. Donc, il faudrait que pour le journaliste, qu'il se tienne, qu'il se contente justement de juste donner la bonne information, les bons résultats. Je pense que c'était tout, hein, pour la présentation de Djabou. Elle nous a fait le plan et bien sûr les différentes étapes par rapport à la recherche. Maintenant, s'il y a des gens qui veulent intervenir ou poser des questions, n'est-ce pas, le débat est ouvert.